Alors j'ai toujours eu l'amour des mots. L'amour de dire les mots et de leur donner une dimension différente de la fonction qu'on leur attribue au quotidien. Et c'est vraiment ce qui me faisait vibrer au théâtre. Et un jour, pendant un stage dans cette classe, on m'a dit que ça teintait trop mon jeu d'un certain lyrisme. Et qu'il fallait donc que je dise les mots plus simplement, que je sois plus simple. Et c'est là que je me suis rendu compte que, sans déformer ces mots-là, il y avait vraiment un gouffre qui s'ouvrait et j'étais pas capable d'avoir de l'imagination de situation. Et devant ce gouffre, c'est poser cette question, comment faire pour y croire?
Pendant un pot après spectacle, avec mes camarades de la classe de la comédie, on a voulu aller sociabiliser avec les comédiens. Et j'ai pas du tout réussi à prendre de la place dans les discussions, j'étais très très effacée. J'avais aussi l'impression que pour sociabiliser, il fallait que je joue la carte de la séduction. Et donc que je trahirais un peu qui je suis, parce que je suis très timide dans la vie de tous les jours.
Je me rappelle d'un professeur de conservatoire qui m'a dit que les personnages seront toujours plus puissants et plus grands que nous. Et parallèlement à ça, on remplit beaucoup de dossiers pour les concours où on nous pose des questions extrêmement personnelles et qui portent vraiment sur nous en tant que personne et pas tellement sur nous en tant qu'acteur. Et donc je me pose un peu la question en ce moment, qu'est-ce qui est plus important dans le jeu, l'acteur ou soi en tant que personne?
L'enfance de l'art.
Les masterclass de la comédie CDN de Reims.
Une rencontre avec Vladislav Galard et
Kaito Bernhardt, Anna Marx Becker
et Sacha Théotiste.
Nous avons donc le plaisir d'accueillir Vladislav Galard à la comédie, nous sommes ravis. On avait des petites questions assez rapides à te poser, donc tu peux répondre sans réfléchir. Cours ou jardin?
Jardin.
Improvisation ou texte?
Improvisation.
Micro ou voix portée?
Voix portée.
Violoncelle ou trompette?
Les deux.
Carrière solo ou troupe?
Troupe.
Merci.
De rien.
Quand j'étais au collège, mes professeurs ont organisé un spectacle, Carmen de Bizet. Et donc, il fallait passer des auditions. Donc moi, j'ai voulu passer l'audition pour le rôle de Carmen, évidemment. Et j'ai aussi passé l'audition pour le second rôle féminin. Et mes profs hésitaient entre les deux. Sauf que moi, j'étais dévastée parce que j'avais visiblement un très grand orgueil. Et vu qu'ils hésitaient encore, les jours qui ont suivi, ils ont organisé des espèces de petites surprises. On était en plein cours de français et ils me demandaient tout d'un coup, vas-y, chante une chanson, improvise les paroles pour Thibaut là-bas au premier rang. Et alors moi, que je déteste ce genre de choses, je déteste l'improvisation et je le faisais quand même et j'y allais, alors que c'était pas du tout moi à cause de l'adrénaline. Et je me suis demandé si toi, t'avais déjà dû faire des choses folles pour obtenir un rôle.
Oui, j'ai déjà avec un ami enregistré une vidéo de moi-même sous la porte Saint-Martin où j'avais une couronne de galettes des rois sur la tête et je nourrissais les pigeons avec un grand manteau de fourrure pour être pris dans un spectacle pour enfants dont le metteur en scène cherchait un acteur pour jouer le roi. Ça s'appelait le roi et l'enfant et le fou et encore quelque chose, je sais plus quoi. Et donc, la réalisation de cette vidéo m'a permis d'obtenir le rôle. Mais ensuite, je me suis fait virer. Au bout de 3 semaines de répétition. C'est pas très fou, mais bon. C'est peut-être le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie.
Quand j'étais petite, je voulais devenir présidente. Et après, je me suis dit que je voulais pas me faire haïr par la moitié du pays. Et ensuite, j'ai voulu faire de la cuisine. Donc je me suis dit, peut-être pas actrice, peut-être CAP cuisine. Et j'ai vu sur ta page Wikipédia, car je me suis un peu renseignée, que tu avais fait l'école polytechnique. Et ensuite, que tu étais allée dans une autre école. Et après, encore le conservatoire. Donc je voulais savoir un peu comment ce revirement, ou alors peut-être pas.
Alors, oui, donc moi je viens quand même d'un autre temps, quand même, je crois, parce que quand j'étais au lycée, il y avait ceux qui avaient des bonnes notes allaient en première S pour faire des maths et de la physique. Donc j'avais des bonnes notes, je suis allé là, puis après j'ai jamais réfléchi à rien. Je crois qu'on demande beaucoup plus. J'ai une fille qui vient de passer par Parcoursup, donc je sais qu'aujourd'hui on demande beaucoup de aux jeunes de penser très vite à ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'était pas le cas du tout à mon époque, quoi, si je peux dire. Donc j'ai suivi simplement la marche forcée des choses. Et j'ai réussi ce concours, je me suis retrouvé à l'école, et puis à l'école je me suis aperçu que j'étais toujours pas capable de concevoir un projet professionnel et de donner une suite à cette formation prestigieuse, à la transformer en quelque chose de concret. Et donc je faisais du théâtre en amateur là-bas à l'école, comme il y en a qui faisaient ping-pong ou le club BD. Et en fait, l'angoisse, elle est montée très fort parce que je voyais vraiment pas ce que j'allais faire après. Je pensais d'abord me spécialiser dans les sciences de l'environnement. Mais ce n'était plus une option, finalement. On a visité des centrales d'épuration et j'ai compris que c'était ça la destination des personnes qui veulent faire des sciences de l'environnement. Et c'était un univers vraiment difficile, dans lequel je me voyais pas du tout. Bref, et tout à coup, mon prof de théâtre dans le club m'a dit que j'avais peut-être un coup à jouer dans ce métier. Et j'ai tout mis pour le faire, mais du coup, plutôt comme une fuite. C'était plutôt un choix en négatif qu'un choix en positif. Je me suis enfui, en fait, par le théâtre. J'étais très sensible à ce que tu as déclaré au tout début, parce que pour moi aussi, ça commence par les mots. Et à cette époque-là, je lisais tout le temps Beckett, qui est un auteur super important pour moi. Et c'est avec des scènes de Beckett, du coup, que j'ai passé les concours et puis qu'après, j'étais pris dans les écoles d'art dramatique.
Mais tu as dit que tu préférais l'improvisation au texte, au début.
Pour moi, quand on improvise, on travaille en temps réel la matière du langage. Et c'est pas parce qu'on est en improvisation qu'on a nécessairement une forme de langage appauvri ou fade. Je pense qu'on peut aussi s'efforcer dans l'instant, dans la terreur de l'instant, de réaliser les phrases les mieux construites possibles, comme j'essaie de le faire à cet instant même.
Moi, mais j'ai aussi ce truc de construire la phrase, la galère, parce que je sais que je me regarde beaucoup, quoi. Il y a un truc du dessus qui surveille comment les choses se font. Ça pense beaucoup. Et je sais que on croit que le théâtre, c'est l'endroit où on va arrêter d'être timide, arrêter de trop réfléchir, on se lâche, voilà, c'est bon, c'est l'endroit de libération. Sauf que, j'ai beau en faire, depuis un moment, j'ai toujours ce regard qui reste et qui me dit « Ah, pourquoi t'as fait ça comme ça ?» Enfin, ça ne part pas. Sauf si je commence à jouer en japonais, c'est vraiment les moments où je dirais où d'un coup ça disparaît, enfin c'est le déclic. Et je me demandais si toi, t'avais aussi ce problème de se voir, parce que je pense que beaucoup de comédiens, en tout cas surtout qui commencent, peuvent l'avoir. Et est-ce que ça s'est effrité? Est-ce que ça a disparu d'un coup? Est-ce que tu as eu un déclic?
J'ai été confronté au même problème. Malheureusement, j'ai jamais pu jouer en japonais pour le résoudre. D'abord, le fait de passer par l'improvisation, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup d'écriture de plateau dans ma carrière. Et le fait d'être dans l'improvisation, l'écoute de l'instant, fait que tu t'occupes un petit peu moins de comment tu dis, de comment tu te comportes, puisque tu cherches le quoi, tu cherches ce que tu vas dire, comment est-ce que tu vas pouvoir agir sur la situation ou agir sur le partenaire, l'adversaire, dans le cadre des conflits. Enfin, on cherche souvent des conflits en improvisation, parce que c'est souvent les conflits quand même qui font naître les scènes puissantes. Et si tu es en improvisation, alors tu t'occupes un petit peu moins de la manière dont les choses sortent. Tu t'occupes de la manière dont tu vas pouvoir agir sur l'autre. Ça, c'est une première chose. Je pense que c'est un excellent exercice, enfin une excellente pratique pour les acteurs de passer par l'improvisation. Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment important. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est d'une manière un peu plus, comme un ancien, c'est que le fait d'avoir un regard sur soi n'est pas une faiblesse, mais est indispensable. Parce que il faut avoir une perception de soi-même dans l'espace, il faut avoir une perception de ce que ton attitude physique renvoie. En fait, ce regard sur soi, en fait, il est indispensable, à condition que ce soit pas un regard complaisant ou inquiet de d'être bien, d'être beau, d'être bon, mais que tu essayes de faire, de produire quelque chose d'intéressant ou peut-être de beau, tu vois, par l'inscription de ton corps dans l'espace, la faculté à décider la bonne distance avec le partenaire, avec les éléments scéniques. Et je trouve que avoir une image de soi qui joue est indispensable pour travailler de représentation en représentation, à faire quelque chose qui soit de plus en plus fin, profond et de qualité. Je suis aussi très timide, donc j'étais touché par ta première intervention également. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans notre branche de personnes qui sont très extravagantes et très exubérantes, et d'autres qui sont discrets. Moi, je suis quand même plutôt quelqu'un de discret. J'ai toujours été discret. Mais il y a plein de gens très discrets qui deviennent acteurs. Et je trouve que c'est aussi une belle façon.
Moi, récemment, en ce moment, cette année, on se prépare pour les concours aux écoles nationales. Et j'ai montré mon parcours libre devant ceux qui nous préparent. Et on m'a dit refait. On m'a dit refait. C'est pas grave, mais c'est pas ça. Et pourtant, l'échéance, elle est dans une semaine et demie. Et donc, je me retrouve un peu paralysée par le stress, justement. Et est-ce que toi, t'as des conseils? Comment tu rebondis face à l'échec? Ou alors peut-être que tu n'as jamais vécu l'échec.
Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux t'aider. Je connais très mal les processus de sélection des élèves acteurs. Enfin, j'ai jamais fait partie d'un jury. Je suis pas du tout là-dedans. J'ai pas du tout compris ce qui m'est arrivé quand j'ai passé le conservatoire. C'était la première fois que je le passais. Comme j'avais déjà ce parcours, j'étais au-delà de la limite d'âge et une dérogation parce que j'avais fait un parcours particulier. Enfin, je me suis présenté, j'avais très peu d'expérience et tout ça a marché. Ensuite, on m'a bien fait comprendre que j'avais été admis parce que j'étais une curiosité, ce qui était un peu dégradant. Bon, enfin, l'essentiel était que j'étais quand même entré. Je trouve les processus de sélection dans les écoles d'art dramatique vraiment monstrueux, quoi. C'est monstrueux, il y a tellement peu de place. Enfin, c'est des usines à créer du malheur, hein. Non mais si vous allez passer tous les trois, c'est je suis certain que vous serez admis tous les trois, ça va très très bien se passer. Et puis vous et vous les autres. Aussi, ouais.
Je me rappelle pendant les stages qu'on a eus, j'ai essayé de jouer Don Elvire par exemple dans Don Juan ou encore Nora dans La Maison de Poupée, et je me suis heurtée à un certain mur assez rapidement. Et nos stages durent 3 semaines, donc je me rappelle m'être battue pour vraiment essayer de rendre justice, ou en tout cas de faire quelque chose que je trouverais bien. Et je me demandais si t'avais des personnages comme ça qui, je sais pas, moi je dirais me hantent pour l'instant, mais c'est un peu exagéré, mais qui te restent comme ça.
Tous les personnages que j'ai interprétés me restent.
Quel personnage t'aimerais jouer maintenant?
Tous les personnages.
Tous les personnages, parfait, très bien.
Non, je suis pas. Je vais pas dire oui. Je rêve de jouer Hamlet. Non, vraiment pas. Non. Je. Puis en plus, moi, dans mon chemin, j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes. On faisait pas de théâtre réaliste trop. Enfin, j'ai joué des elfes. J'ai joué des dieux grecs. J'ai joué
des femmes.
J'ai joué des femmes. Je trouve exaltant à cause de ma timidité, je pense. Hein. La possibilité de faire des choses. Les plus variés possibles, quoi, les plus extravagantes possibles.
Moi, j'ai pas trop de personnages qui m'ont hanté, mais j'ai des thèmes. Par exemple, en ce moment, enfin, dernièrement, j'ai travaillé sur la bombe atomique, parce que je trouve que c'est un thème qui est pas très. Qu'on voit pas forcément au plateau ici. Et en fait, la bombe atomique, ça me bouleverse tout le temps, et je savais que j'avais la nécessité de donner une place en France sur un plateau, et donc je voulais travailler dessus. Et en le travaillant, je me suis dit, ça me touche tellement, mais j'ai l'impression que c'est tellement immense que mon corps, mon pas si petit mais petit corps, était pas à même de porter cette grandeur, cette puissance-là. et je me demandais si tu avais des rôles ou des thèmes comme ça où tu t'es dit c'est vraiment une montagne, je sais pas si je suis capable de porter tout ça sur mes épaules.
Ben, j'ai joué des personnages historiques, moi. J'ai fait quand même plusieurs spectacles avec Creusevaux notamment, où on a fait des travaux historiques. J'ai joué Saint-Just, par exemple, dans Notre Terreur, il y a vraiment longtemps maintenant, mais c'était un très beau spectacle qu'on a joué peut-être même 4 saisons de suite. Et quand on a commencé, ouais, c'était très dur de porter cette figure qui était très écrasante. Il était mortellement jeune. J'étais déjà plus vieux à l'époque que ce qu'il n'était quand il a été guillotiné. Donc, il y avait quelque chose de vraiment fascinant à cause de sa violence aussi, dont je ne trouvais pas trace en moi, de son idéalisme qui était forcément plus fort que le mien. Et j'étais écrasé par ce rôle sur lequel en plus on travaillait en improvisation. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis de le jouer. Un jour, en fait, j'ai trouvé une démarche qui était un peu entre la cigogne, peut-être, les échasses, en fait, j'ai des très longues jambes, et le fait de simplement de me déplacer d'une manière différente sur scène m'a fait parler d'une manière différente, parce que le mouvement entraîne la parole est aussi un mouvement, donc enfin le mouvement du corps entraîne le mouvement de la parole, le décale, et ça décalait l'esprit. Et en fait, à partir de cette démarche, j'ai trouvé une manière de proférer et une manière de penser qui m'a permis petit à petit d'être de plus en plus radical en improvisation, et ce qui petit à petit m'a donné confiance et m'a permis de construire le personnage. Il me semble que quand on est écrasé par une figure, surtout peut-être si c'est un grand rôle, célèbre, alors peut-être c'est intéressant de commencer par le bouger plutôt que par le dire. C'est peut-être une voie possible pour entrer, si c'est hermétique, si c'est fermé.
Et pardon, Saint-Just, c'est qui?
Saint-Just, c'est un personnage de la Révolution française qui était au comité de salut public avec Robespierre.
D'accord.
Ils sont guillotinés ensemble.
Super.
Et j'avais fait un stage qui me fait vachement, vachement penser à ce que tu disais, qui passe par une approche du corps. On me disait, ouais, là, imagine que t'as des ongles super longs. Faut pas le montrer aux gens, faut pas faire comprendre que t'as des super longs ongles en montrant comme ça, mais vraiment juste tu le sens et ça se diffuse dans tout ton corps.
Ouais.
Et en fait, c'est des mini-détails où tu te dis, vu que je le montre pas, en fait, les gens vont pas le comprendre, mais pourtant, ça change l'attitude dans le corps. Et ça pouvait, c'était un bon outil pour retrouver le personnage, souvent sans avoir à plonger dans un truc hyper...
Ouais, je comprends ça très bien. Moi, je suis pas du tout un théoricien de l'art dramatique, hein, mais je crois quand même à ça aussi, le fait que, à partir du moment où tu te dis que tu vas montrer quelque chose pour que les spectateurs le comprennent, c'est probablement que t'es pas bien engagé. Hein. Enfin, moi, je crois toujours que c'est dans la tête, qu'on doit être très, très fort, avoir un univers le plus large possible. Avoir beaucoup d'informations sur les choses qu'on joue, en ayant lu à côté, en ayant regardé des tableaux, en ayant écouté de la musique, peut-être de la même époque, enfin des choses qui sont connexes, qui créent comme ça une constellation autour de la figure que tu dois interpréter, qui fait que tu arrives au plateau avec un univers. Et si ton univers il est très fort, alors en fait tu n'as rien à montrer, parce que ça sort de toi. J'ai vu un acteur qui s'appelle Alexandre Palu jouer dans Andromaque. Pourquoi vous avez vu Palu?
On l'a eu en stage.
Ah ouais. Moi j'adore Palu. Et quand je l'ai vu jouer Pyrrhus dans Andromaque, ça m'a vraiment fait un gros choc, parce que il est arrivé, il était assis avec ses cheveux longs un peu dégueulasses comme ça à la table. J'avais la sensation que son corps irradiait de la puissance de ce qu'il avait dans la tête. Et effectivement, après on a discuté et il m'a dit qu'il avait lu tout ce qu'il pouvait lire sur la figure de Pyrrhus. Il avait lu de Homère à Racine, et puis tout ce qu'il avait pu voir autour, tu vois. Puis vu des tableaux dans les musées, etc. Et qu'il avait du coup un nuage énorme, noir, terrible, qui faisait que tout ce qu'il proférait, si tu veux, était associé à des images qui étaient dans sa tête et qui nous parvenaient du coup avec énormément de force, sans qu'il ait besoin de signifier, de montrer.
Mais si t'es beaucoup dans ta tête, tu te coupes pas un peu de du reste. Enfin, moi je sais que j'essaye de beaucoup emmagasiner d'images et quand je joue, je suis vraiment pris par des images comme ça. C'est comme ça que je fonctionne aussi, mais j'ai l'impression que ça m'enferme dans ma tête. Ça me coupe de mon corps, de mes partenaires aussi parfois même.
Bah, quand t'as un gros univers et que t'as la sensation d'être coupé, alors je pense qu'il faut revenir à qu'est-ce qui se produit dans la scène et toujours chercher à agir sur l'autre. C'est en général quand même la clé de chercher pourquoi est-ce que le personnage il dit telle réplique dans le cadre d'un texte écrit. Quel est son but en fait? Bah, bon, ça c'est des trucs un peu stanislavskiens, des objectifs, etc. Mais je pense que c'est vraiment des clés parce que si tu te mets dans une dynamique d'action, alors tu te libères de ce danger en fait de sombrer dans un quant à soi un petit peu refermé, coupé des spectateurs et des autres acteurs. Mais je pense qu'il faut toujours agir sur l'autre, ouais.
Un peu comme dans L'acteur et la cible. Est-ce que tu as lu ce livre? Parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à ce que tu dis.
C'est quoi?
C'est De clan de Nélan, c'est ça. Et du coup, il parle justement du fait qu'on a une cible qui change et qu'on essaye d'agir toujours sur cette cible et que c'est ça, c'est elle qui agit sur nous. Enfin, c'est plutôt qu'il faut vraiment que tout est en dehors, en gros. Qu'il faut pas justement être à l'intérieur, mais juste toujours en rapport.
Voilà, donc je suis d'accord avec des clans de Nélan. C'est pour ça que c'est aussi excellent pour moi et pour Adeline aussi, je pense, comme acteur, de pouvoir jouer le diptyque de Marc Lainé. Parce que quand on n'est que deux, en fait, tout ce qu'on dit, c'est des flèches envoyées sur l'autre. Des flèches d'agressivité au bout d'un moment quand la relation se désaccorde entre les deux personnages. Mais au début, c'est d'autres sortes de flèches. C'est les flèches de séduction, d'essayer de chercher l'autre, de le surprendre. Et je pense que tout ce qu'on fait, l'un et l'autre, est vraiment toujours à destination de l'autre. Ce qui fait que on a beau être filmé et savoir qu'on est filmé, je crois que ni l'un ni l'autre, on ne se préoccupe de notre image à l'écran. On se dit pas, ah, ce serait bien si là je montrais que je suis soucieux, ou que je montrais que je suis en colère, etc. C'est pas ça qu'on fait, puisque comme on cherche que à agir sur l'autre, alors on oublie quelle apparence on a. Mais il se trouve que par magie, la bonne magie de l'art dramatique, c'est qu'on a pile la bonne tête si on a la bonne pensée dans la tête.
La musique, c'est vraiment très important pour moi. Enfin, je chante beaucoup et j'aimerais réussir à vraiment incorporer ça dans mon parcours de comédienne, dans mon identité artistique. Bon, je l'ai déjà fait, mais en tout cas, je sais que justement, quand je fais ça, il y a des moments de communion, enfin... peut-être avec moi-même, je sais pas, avec le public, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être entière. Et je voulais savoir, donc toi, vu que tu fais de la musique, tu chantes, tu fais du violoncelle, de la trompette, si je me trompe pas, est-ce que ça a pris beaucoup de place dans ton parcours? Quelle importance tu leur as accordée?
Oh bah, ça a toujours été une part essentielle. Hein. Pour moi, j'ai commencé le violoncelle quand j'avais 9 ans. J'étais dans les conservatoires municipaux. Donc c'était très standard, et après il fallait choisir voie professionnalisante ou non professionnalisante. Moi j'ai choisi professionnalisante, et mes parents m'ont dit non, tu vas choisir non professionnalisante, donc j'ai choisi non professionnalisante. Donc après j'ai un peu, je me suis embourbé dans les classes d'un peu d'en haut là du conservatoire municipal, jusqu'à ce que je laisse tomber, mais ça correspondait au moment où j'ai rencontré un pianiste, avec qui on s'est mis à jouer tous les deux, et en fait l'un dans l'autre, année après année en fait, puis je joue aussi de la guitare.
C'est tout faire quoi.
Non mais c'est pas le truc, mais en fait année après année j'ai toujours fait de la musique, et en fait c'est une part essentielle de ma vie, je peux pas me concevoir sans. Donc en fait depuis toutes ces années, moi j'ai toujours un instrument sur scène. Ça a quasiment toujours été le violoncelle, mais dernièrement un peu la trompette grâce à Vincent Segal, qui a toléré qu'avec mon expérience de 3 ans de trompette, je joue quand même avec cet immense artiste. Parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais je trouve que c'est vraiment formidable pour un acteur d'avoir un instrument ou le chant, enfin parce que on peut exprimer tellement de choses par la musique, enfin. J'ai fait aussi plein de spectacles avec Samuel Achache et Jeanne Candel, qui sont des personnes qui trouvent que parfois, quand les mots ne peuvent plus exprimer ce qu'on a à communiquer, alors c'est justement là que intervient la musique. Ça, c'est une super belle façon pour nous, les acteurs, de dégager quand sinon on serait trop plat ou trop frontal ou banal. Moi, j'adore le théâtre musical et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le théâtre musical qui est assez en forme, je crois, dans notre pays. En ce moment, il y a plein de propositions différentes. Il y a des opéras qui sont joués à petit personnel, dans des formes un petit peu pauvres comme ça, mais très poétiques. Je trouve que ça, c'est très vivant. Moi, je trouve que le théâtre musical a de super beaux jours devant lui et que c'est une branche de notre pratique qui est super belle.
Moi, j'ai fait avant cette formation, il y a 3 ans, j'ai fait aussi une classe préparatoire de théâtre qui était bien plus chiante que celle-là.
Qui ne l'est pas, du coup.
Chose. Parce que on préparait les concours tout le temps. C'est-à-dire que c'est une classe préparatoire au sens littéral. On fait que les scènes de concours. Je me suis senti vraiment vidé de tout élan artistique, toute volonté de créer, parce que je me disais, là, je fais du théâtre pour un résultat. Et c'est tout. Après, je l'aurais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais vu qu'on n'avait pas d'intervenant qui nous faisait découvrir des choses, à la fin, j'ai vraiment été dégoûté. Et je me suis dit, bon, je crois que je vais arrêter ça, en fait. Si c'est ça, toute ma vie, si c'est ça, devenir acteur, alors j'ai vraiment pas envie de faire ça, quoi. Et je me suis quand même raccroché, je me suis dit, l'année prochaine, fais pas de prépa, fais un truc plus light, mais fais quand même du théâtre un peu à côté. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, t'arrêtes. Et je sais que je fonctionne pas mal par moment de découragement, un peu. Je peux me laisser vite aller. Mais je sais pas, y a un truc qui fait que je lâche jamais, je trouve des nouvelles sources d'inspiration qui font que, bon, on va se raccrocher à ce petit élan. Est-ce que toi, t'as eu des moments de découragement? Des moments où tu t'es dit, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je dois arrêter? Ou au contraire, t'es vraiment quelqu'un, voilà, j'ai la niaque, je fonce tout droit, quoi.
Alors, tu sais, moi, je fais de la trompette, donc le découragement, c'est c'est plusieurs fois par jour. Non, je trouve que c'est indispensable d'être découragé tout le temps. On peut pas fonctionner comme des machines qui avancent toujours, non? Faut quand même bien s'enliser et considérer qu'on est foutu, non? Non, mais ça fait beaucoup, ça fait sortir plein de choses. C'est certain. Nos existences, en tout cas dans ce genre de profession, ne peuvent pas fonctionner de manière directe, quoi. On doit forcément se prendre des murs, des ratages, des humiliations. Enfin, je veux dire, il y a tellement de... Ça, évidemment pas le temps ou même pas envie de raconter toutes les foirades, tous les ratés, tous les metteurs en scène toxiques, toutes les expériences négatives que j'ai eues, mais je suis sûr qu'elles m'ont toutes construites. Enfin, on grandit. Enfin, c'est un proverbe, je crois. Il y a eu un proverbe que quand on tombe, on se relève, on est un peu plus grand que la fois d'avant. Non, je suis sûr que ça doit être une bonne chose quelque part.
La preuve, t'es très grand.
Je suis très grand.
Toi aussi, d'ailleurs, Kaito.
Oups.
Non, moi, j'ai une question pénible. Mais je sais pas. En fait, non, je préfère que tu poses ta question, Kaito.
Que je pose ma question?
Oui, ta question.
J'ai plus de questions.
Si, ta question sur les personnages compliqués à jouer.
Ah oui, punaise, bah oui.
Elle est super.
Elle connaît mieux que moi. Ouais, en fait... Je sais que avant j'ai pas mal joué de rôles de gens horribles, quoi, sales, et ça me dérangeait jamais. Je me suis jamais posé la question, juste je le faisais parce que je me disais il y a quand même besoin de faire exister ces gens parce qu'ils sont là. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Ben ils sont là, faut les montrer. Et là récemment, il y avait un rôle où fallait, il y avait un mec qui devait avoir un rapport plus vraiment sale physiquement avec les femmes, et c'est là où j'ai senti que là, je j'arrive pas trop. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai embrassé jusqu'au bout les personnages méchants, je dirais, jusqu'à maintenant, enfin les personnages sales, ou là, c'est juste que je vois que là, qu'on faut y aller à fond, vraiment être sale, j'y arrive pas. Enfin, c'est ce que je me suis dit, en tout cas. Et bah, dans ton spectacle notamment, je veux pas avoir une vision manichéenne de ton personnage, mais il y a quand même des endroits très très sale aussi. Ouais. Et je me demandais comment tu arrivais à le défendre à 100% et à poser aucune question. Et à réussir à rentrer là-dedans, en fait.
J'ai jamais de rapport moral avec les figures que je dois interpréter. Jamais. Ça me vient pas, en fait. Il me semble que le personnage de Paul Langlois, en tout cas, en particulier, il a des désirs assez clairs. Et du coup, quand il met en œuvre ses désirs, en fait, il fait beaucoup de mal. Mais moi, je me concentre sur les désirs. Et l'inconfort moral, en fait, que véhicule ces deux pièces vis-à-vis de la figure de Paul Langlois, c'est pas mon problème, en fait. Et je pense que c'est le mieux comme ça. Je pense que c'est vraiment le spectateur qui doit s'occuper d'avoir un problème moral avec la représentation, et que si les acteurs commencent à avoir des problèmes moraux avec les figures, on risque de plus pouvoir représenter grand-chose, en fait. Donc moi, je t'inviterais à te concentrer sur à nouveau les actions et les motivations du personnage, et à pas te préoccuper trop de la beauté morale, quoi. C'est sale, peut-être, mais pas tellement à toi d'estimer, je crois, le degré. Non, mais j'avais entendu que dans une promo récente du TNS, il y avait des actrices qui étaient pas d'accord pour jouer l'échange de Claudel. Parce que c'est vrai que la figure de Marthe, bon, de toute façon, Claudel, c'est un peu, parfois un peu gênant et tout. Et tu te dis, de nos jours, c'est difficile quand même. Mais si du coup, les actrices veulent plus le jouer, alors on peut plus le jouer. Et si on peut plus le jouer, alors on peut plus comprendre aussi trop d'où on vient, d'où le monde vient. Évidemment, personne n'a envie de monter le Marchand de Venise. Mais toi, à force, si on fait trop des trucs comme ça... Moi, j'ai fait une adaptation de Dostoïevski, Frère Karamazov, là, il y a pas très longtemps, avec Creusevaux. Il y a écrit Youpin toutes les trois pages dans Dostoïevski. Donc le problème se pose. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire Youpin toutes les trois minutes sur scène? Donc probablement pas. Et effectivement, c'est pas ce qu'on a fait. On a dégagé l'antisémitisme de Dostoïevski, qui est un antisémitisme, comment dire, ordinaire. Enfin, c'est un antisémitisme de la fin du 19e. Il y a rien de plus banal, en fait. Et du coup, on le dégage. Parce que on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie que le spectacle soit perçu comme ça. Donc on le dégage. Mais si on fait tous ça, si on expurge, tu vois, si on garde pas les dimensions moralement dérangeantes, alors au bout d'un moment, on comprend plus, bah notamment l'antisémitisme, et on comprend plus l'Holocauste. Enfin, je sais pas comment dire. C'est trop gros ce que je dis là. Évidemment, c'est débile, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport à la mémoire pour le théâtre, sans en faire un truc trop patrimonial. Mais je pense qu'il y a des mémoires d'histoire qui font que le théâtre peut nous aider à appréhender le monde dans sa complexité.
Moi, je me rappelle, en terminale, on avait étudié Le soulier de satin de Claudel, et on avait deux personnages qui posaient particulièrement question. C'était la négresse Joe Barbara et le chinois. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment, vraiment dérangeant, parce que je me rappelle qu'on avait vu une captation de Vitesse, où c'était une femme blanche peinte en noir et qui faisait un peu vraiment le cliché de pygmée horrible. Ouais. Et là, du coup, je me disais, bon, là, franchement, il y a des parties qu'on peut enlever, parce que là, c'était juste vraiment, comment dire, c'était pas des personnages qui disaient des propos, c'était vraiment de l'humiliation complète, je veux dire, d'un personnage et d'une ethnie, d'une personne de nationalité, quoi. Mais je vois aussi ce que tu veux dire.
Ouais. Le monde est complexe, et notre art est complexe aussi.
Est-ce que pour te soulager, tu voudrais plutôt nous poser une question à nous? On te pose une question.
De l'impro encore.
Est-ce que vous pensez que vous avez davantage à apprendre de vos professeurs en école d'art dramatique ou de vos confrères et consœurs?
Wow. Alors, moi je dirais quand même que après au stade où on a encore beaucoup à apprendre de la part de professeurs, mais je sais pas. En fait, plus j'avance, plus je me dis qu'il y a quand même plein de découvertes qui se font par juste le fait d'être au plateau, par des réflexions que je me fais moi-même, et que les professeurs nous donnent des clés, mais je sais que c'est pas tant ça qui fait que tout d'un coup je vais me dire, ah ouais, je joue bien parce que je vais faire la méthode qui m'a dite, et que je sais que les vrais moments de déclic, c'était quand j'arrêtais de trop penser, que je lâchais, que je regardais les gens avec qui je jouais. Et en fait, c'est pas si simple de vraiment regarder les gens avec qui on joue, tellement on est dans notre tête. Et je pense qu'en fait, oui, les gens avec qui on joue ont énormément à nous donner. Et nous, notre classe, on s'entend franchement tous très bien. C'est une promo qui s'entend super bien. Et ça fait un an et demi qu'on se côtoie presque tous les jours. Et pourtant, mais je suis sûr qu'on a encore tellement de choses à apprendre. Enfin, je vois que quand même, il y a encore plein de choses à voir chez l'autre qu'on n'a pas encore montré ou qu'on n'a pas encore aperçu chez les autres.
Alors, moi, je dirais que aussi, oui, les professeurs, ils ont vraiment planté des graines. Mais moi, je me rappelle que la plupart des phrases qu'on m'a dites, qui m'ont aidé plus tard, étaient vraiment, franchement, cryptiques. Enfin, quand on dit plonge, par exemple, ou écoute, c'est pas très concret, c'est très abstrait, et que c'est vraiment, enfin, qui plante les choses et qu'après, vraiment, on comprend avec l'autre. Aussi, je suis d'accord que c'est vraiment le fait d'être et de juste d'être, en fait, de se laisser être, de lâcher. Enfin, comme tu disais, dans les moments où on a l'impression d'échouer, où on échoue, et qu'on lâche, et moi j'ai l'impression que quand j'abandonne, en fait, au plateau, eh ben, on me dit toujours, ah, c'est là, tu l'as. Arrête de jouer, tu l'as. Et donc, et que c'est avec les autres aussi qu'on se sent moins seul et que du coup, ça remonte.
Mais c'est vrai que, vu que c'est ma première formation après le lycée de théâtre, vraiment intensive, je me rends compte que c'est fou comme tout ce qu'on peut voir chez quelqu'un quand on est à l'extérieur du plateau, sur les gradins, et qu'on regarde ce qui se passe, et on voit tout ce qui marche, tout ce qui marche pas. Mais dès qu'on est sur le plateau, ben là, tout d'un coup, on voit plus rien. en tout cas, moi, j'ai du mal à avoir cette vision, ben, cette conscience et tout, du corps, de l'espace de laquelle tu parlais tout à l'heure. Donc c'est sûr que c'est vraiment... Ça apprend énormément de regarder les autres, c'est sûr.
Mais juste un petit mot, mais après je devrais aller en loge. non, mais c'est que les écoles de théâtre comme la vôtre là recrutent les élèves en individuel, donc c'est des concours individuels. Et ensuite, vous êtes amené à passer d'autres concours qui sont également individuels, avec comme je comprends que vous allez passer le TNS. Et c'est une aberration en fait, parce que moi je peux vous garantir que pour toutes les personnes que j'ai fréquentées pendant toutes ces années et qui ont aussi des souvenirs d'école, enfin, les choses qu'on apprend, c'est les gens de notre génération qui nous les ont enseignées, ou alors on les a découvertes ensemble, ou cru les découvrir, ou redécouvertes, en fait. Je vous engage vraiment à vous... Il y a beaucoup d'ailleurs de promos qui sortent des écoles et qui ensuite construisent une troupe. Alors, est-ce qu'elle va réussir à durer ou pas, etc. Parce que c'est compliqué après, elle est confrontée à la dure loi de sélection des spectacles et tout ça, et puis les gens vont eux-mêmes faire des carrières un peu individuelles. C'est pour ça que vous m'avez demandé au début troupe ou individuel. C'est toujours un peu difficile, mais c'est certain que c'est dans la création d'une bande et les autres personnes avec qui on joue qu'on grandit, qu'on devient plus fort, qu'on comprend des choses, qu'on a des déclics, etc.
Merci beaucoup et merde.
Ouais. L'enfance de l'art. Une masterclass avec les élèves de la classe de la comédie, CDN de Reims. Ecomédie.fr.